Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Une énergie radieuse et solaire de vainqueur doué pour plusieurs vies. Eh bien, tel est Yannick Noah, dernier Français à avoir remporté une finale à Roland-Garros, capitaine heureux de l'équipe de France de Coupe Davis en 91, 96 et 2017, mais aussi chanteur dont la popularité lui offrit le Stade de France, eh oui, tel Mick Jagger ou Céline Dion, c'était en 2010. Alors voilà, les vies de Yannick Noah sont inattendues, mais cohérentes. Après 2 ans passés sur un voilier au bout du monde, il nous revient avec un album gorgé d'énergie positive, car, eh ben oui, l'optimisme, ce n'est pas un vilain mot. L'album a pour titre « Bonheur Indigo ». Une grande tournée va faire danser et rêver les foules de mai jusqu'à cet hiver à l'Olympia, les 11, 12 et 13 décembre.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue,
bonjour,
Yannick Noah.
Bonjour.
Yannick Noah, comment faut-il s'y prendre en 2020 pour être un homme heureux?
Vaste projet. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, je tente, je propose, j'essaie de regarder autour de moi. J'essaie de profiter de ce que j'ai. Je pense que ce qui a été le plus fort dans les années qui, voilà, les dernières années, c'était le fait de perdre mes parents. Et parallèlement de devenir grand-père, grand-père. Tout d'un coup, je deviens le patriarche de la famille.
C'est ça.
Je regarde quand même derrière moi. Je regarde un petit peu, je pense à ce que je vais leur laisser. Et je me dis que le temps passe vite. Et dans ces moments-là, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut profiter de la vie, quoi. Et voilà, j'ai des rêves. J'ai eu des rêves et j'essaie de vivre mes rêves.
Voilà, alors. Comment approcher le bonheur? Bien sûr, l'une des solutions, mais elle n'est pas donnée à tout le monde, est de larguer les amarres, au propre et au figuré, avec femme et enfant, pour le bout du monde et vivre dans la lumière, le vent, le soleil et l'essentiel, en fait, sur un bateau à voilier. C'est ce que vous avez fait pendant 2 ans et demi. Mais naviguer, j'en reviens pas, parce que naviguer, ça s'apprend. Pour de grandes traversées, personne ne s'improvise skipper sur un voilier. Comment vous êtes formé, Yannick?
J'ai toujours aimé le bateau. En fait, c'était pour moi une façon de m'évader. Et j'ai toujours, moi, mes vacances, ça a toujours été en bateau. Ça fait 40 ans. Prendre le large, partir, revenir, être au calme, contempler un peu la nature, se sentir tout petit au milieu de l'océan. Ce sont plein de sentiments comme ça qui sont très très forts. Une espèce de méditation obligatoire, naturelle. Et du coup, on se sent apaisé. Et j'aime bien cet instant. J'aime beaucoup la nature. Bon, on peut ressentir aussi ça lorsqu'on fait du trekking, qu'on se balade dans la montagne.
Ouais,
ces moments,
ouais.
on est tranquille, on est avec soi-même. On s'écoute respirer. Il y a même des moments qui sont très précieux où parfois on peut même un peu s'ennuyer. Je trouve ça assez chic.
Et on va pas dire qu'on s'ennuie sur un voilier, on médite, on rêve.
Voilà, on médite, il y a même des moments où on se demande qu'est-ce qu'on va faire, voilà, il n'y a pas de réseau, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, et puis on s'aperçoit qu'on a un bouquin qui est là depuis quelques mois, qu'on n'a pas encore commencé, on n'a pas eu le courage de le commencer, et puis tout d'un coup, comme on a beaucoup de temps, la notion du temps est complètement différente, on a de l'espace, on a du temps pour soi.
Mais alors, attendez, là on parle de rêverie, mais quand on sillonne les océans, Yannick Noah, forcément on se fait des frayeurs, il n'y a pas que le calme décrit que ensoleillé quand on arrive. Vous avez appris à gérer, à contrôler des peurs nouvelles?
J'ai jamais eu peur, en fait. J'ai jamais eu peur pour... C'est une raison très simple, c'est qu'on part quand on peut. On n'a pas de but particulier, on n'a pas de calendrier, on n'a pas d'agenda. On sait que quand on a fait notre première traversée là, avec Isa et notre dernier...
Et votre fils,
Joalika,
15 ans maintenant.
Voilà, on est parti du Cap-Vert jusqu'à Grenade. Bon, ben, c'est une douzaine de jours. Mais en fait, on attend une bonne fenêtre météo, on n'est pas pressé.
Mais vous n'étiez que tous les trois sur ce voilier, vous aviez embarqué un marin?
On était avec un marin, parce que bon, mais autant quand tout va bien, quand ça marche, ben moi je peux gérer, mais alors dès qu'il commence à avoir une petite avarie, moi je n'assure pas du tout. Et puis bon, voilà, c'est la sécurité avant tout, il faut respecter la mer, il faut respecter les éléments. Et en fait, on part quand on a des bonnes fenêtres, donc à aucun moment on se retrouve dans des situations où on est en danger.
Vous nous le décrivez, ce voilier?
L'endroit que je préfère, c'est derrière, à la barre. Voilà, t'as l'impression d'être... tu conduis ta maison. Tu as ta maison. Et tu amènes ta maison d'île en île.
Voilà, sur un chemin qu'on imagine forcément vierge.
Bah, qui est
puisque
vierge,
balayé par les vagues, par les vents, donc voilà, non tracé.
Non tracé, en fait, on a le sentiment lorsqu'on en parle. Et d'ailleurs, Joaluca, mon fils, quand on a commencé à parler de notre voyage qui prenait forme, il était inquiet parce qu'il avait le sentiment qu'on allait toujours en mer. En fait, on n'est pas toujours en mer. On navigue en fait 10 à 15% du temps. Le reste du temps, on est dans des criques. Oui. On se balade, on a des vélos, on va à l'intérieur des terres. Et surtout, bon, ce qui est le plus magnifique dans cette aventure, c'est qu'on fait des magnifiques rencontres.
Ouais. Isabelle et Joaluca se sont découverts finalement une âme de marin aussi forte que la vôtre, quoi.
Écoutez, je
sais
pas.
Parce que c'est un vrai projet familial, c'est pas évident du tout.
C'est on a la chance, un privilège incroyable, c'est qu'on a la chance d'être ensemble. On a du temps ensemble. Moi, j'ai 5 gamins, comme vous savez, j'ai des petits. Et j'ai souvent été occupé, que ce soit quand je jouais ou quand j'étais en tournée. Et puis, tant bien même, bon, bah, les rapports qu'on a sont des rapports de qualité. J'ai jamais eu avec les autres enfants, ce quotidien. Et là, c'est au-delà. Et j'irai même plus loin, j'ai jamais eu ça avec ma femme. En fait, avec Isa, on est ensemble depuis 18 ans et ça fait.
Vous êtes retrouvés.
On s'est pas retrouvés, je pense qu'on s'est découvert. On a découvert une autre dimension de nos personnalités parce qu'on est ensemble du matin au soir, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Et c'est très fort.
Il faut s'aimer très fort d'abord pour ça.
Si ça ne marche pas, ça, on le sait tout de suite. Hein, parce que là, on n'a pas dit, tiens, je vais faire un tour, je vais boire un coup au troquet du coin. Non, non, c'est
raté.
Non, je vois ta gueule et puis il faut qu'on règle ça. on va au fond des choses, en fait. Et alors, pour mon fils, c'est très fort aussi parce que voilà, j'ai le temps de passer du temps avec lui. Et puis quand on a des choses, des ressentis, ben, on peut les partager immédiatement. Quoi.
La musique, on l'écoute quand on a jeté l'ancre, normalement, mais moins quand on navigue. Vous aussi, vous aimez au large, quand la mer est tranquille, avoir des écouteurs.
Mais toujours, c'est
vous
toujours.
Vous vivez la mer et les océans en musique.
Imaginez, on a du temps et on est en traversée. On prend des quarts avec Jean-Marie, mon pote capitaine. Et puis voilà, tu as 3-4 heures dans la nuit à suivre un cap en regardant les étoiles. Et tous tes sens sont complètement sensibles, tous tes sens sont en éveil.
Ouais.
Et là, tu te mets une putain de playlist.
Alors, en tête de la playlist.
Mais je peux me mettre, par exemple, tout Sade.
Ouais.
Je peux mettre tout Sade, je peux mettre les 4 albums de Hacha.
Il faut que ça groove sous les étoiles.
Ouais, ça groove, ça berce. Et puis tout de temps en temps, bon ben c'est fin d'après-midi, coucher de soleil, on est en traversée, là c'est l'heure de l'apéro, parce qu'il faut pas oublier l'apéro.
Essentiel.
Et là, bon ben alors là je me mets téléphone à fond la caisse et je chante tout à tue-tête, et tu peux crier, tu peux hurler, et voilà la liberté quoi.
On retrouve tout de suite Yannick Noah.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité Yannick Noah, dont le dernier album a pour titre Bonheur Indigo.
Indigo est la couleur du bonheur pour Yannick Noah, qui part en tournée avec son nouvel album dès le mois de mai. Il va faire tous les festivals cet été, donc, pour finir en apothéose les 11, 12 et 13 décembre à l'Olympia. Alors Yannick Noah, vous dites... Je suis née de l'amour d'un noir et d'une blanche et je sais qu'ils s'aiment encore là-haut. Quand je vois un black, c'est mon frère. Quand je vois un blanc, c'est mon frère. Or, le destin a voulu que mon premier tournoi professionnel se déroule en Afrique du Sud, à Johannesburg, durant l'apartheid. J'étais non-white et Arthur Ashe a dû imposer ma présence. Les organisateurs de ce tournoi ont donc accepté à contre-cœur et m'ont fait jouer à 11h du matin alors que tous les matchs du tournoi débutaient à 14h. Les gratins était vide, avec un tout petit enclos criagé dans un coin. Vous nous racontez la suite.
La suite, c'est que bon, le match s'est bien passé, mais c'est la première fois. Oui, j'ai gagné le match. Voilà, dans le stade, il n'y avait pas de réaction particulière, sauf que tous les gens qui étaient dans l'enclos m'attendaient à la sortie du stade. En fait, on représente des gens qui nous aiment. Et dans ma position, il m'est arrivé où je me suis senti, il y a des moments où je me suis senti vraiment black. énervé, Black, parce que je sentais la souffrance ou les injustices que pouvaient vivre les Blacks. Il y a d'autres moments où je me suis senti tellement blanc, des moments où tu te sens ni l'un ni l'autre. Et puis après, ce qui compte, c'est pour moi, parce que moi, ma survie, c'est de me nourrir des gens qui m'aiment. Et il y a des gens qui m'aiment. Il y a eu des moments où, où j'ai eu l'impression que les gens ont parfois oublié que j'étais noir et blanc, que c'était devenu accessoire. Et ça, j'aimais bien. Le plus beau moment pour moi par rapport à cette relation avec ma double culture et mon travail qui a toujours été de rassembler les deux. Mon plus beau moment, c'est quand on a gagné la première Coupe Davis. C'est le plus beau moment de mon travail.
Ouais.
Parce que tout d'un coup, c'était juste, j'avais l'impression que j'avais réussi à mettre tout le monde d'accord. On n'avait pas gagné depuis 40 ou 50 ans la Coupe Davis. J'étais avec mes meilleurs potes, Forger, Lecomte. On bat une équipe très forte, Agassi et Sampras. On est en France. Je suis capitaine, on gagne. Le stade était incroyable, il y avait une ambiance incroyable. Et mes joueurs me disent, allez, on fait Saga Africa. Et j'avais peur. Enfin, c'était pas le lieu du tout. Et je le fais parce qu'on est dans
les images ont fait le tour du monde.
Non, dans l'euphorie du moment, mais c'était surtout que j'ai vu ce jour-là des dizaines de milliers de gens, alors que l'équipe de France venait de gagner, qui chantaient Saga Africa. Et ça, c'est le plus. Moi, la boucle était bouclée.
La boucle était bouclée, mais moi, je vais retourner sur les terres de l'enfance, au Cameroun, à Yaoundé. Elle a été joyeuse, votre enfance à Yaoundé. Elle a été joyeuse. Parce que vous étiez d'abord un enfant aimé et dans l'insouciance de l'enfance, ou parce que la vie d'alors à Yaoundé était joyeuse pour un enfant à la fois noir et blanc, ou pas tout à fait noir, pas tout à fait blanc. Comment vous l'expliquez ?
Il y avait à l'époque, dans les années 70, c'était, le pays était indépendant depuis une dizaine d'années. Il y avait une espèce d'insouciance, pas par rapport à l'enfant que j'étais, mais par rapport aux parents. Il y avait une joie de vivre, il y avait aucune violence, aucune insécurité. C'était vraiment une époque. Enfin, tous les gens que je rencontre après des années, on en parle, on échange parce que c'était des moments merveilleux. Et oui, je me souviens de mes parents s'amusant constamment. Ils avaient la trentaine, hein, avec les copains, c'était toujours des fêtes à la maison, c'était toujours des fêtes au club, c'était des fêtes tout le temps, ça rigolait tout le temps. Alors ça jouait beaucoup au tennis, il y avait beaucoup de sport, mais ça jouait aux cartes, ça buvait des apéros, il y avait c'était à l'époque qu'on appelait quoi ça, des soirées dansantes. Et ça dansait, et puis et je suis parti très tôt, et c'est ce que j'ai gardé. Je suis parti un peu, ouais,
11
très
ans,
tôt. Ouais.
Le sens de la fête.
11 ans et demi.
Mais juste pour creuser un tout petit peu, tout le monde sait que votre papa, Zachary, était champion de foot. Il a fait sa carrière à Sedan, où il a remporté la Coupe de France en 61. Après donc une grave blessure, il a emmené toute sa famille. Votre maman, elle était originaire des Ardennes, justement, à Yaoundé, pour démarrer une autre vie. C'est là, enfant, que vous avez découvert le tennis. Alors, le tennis à la fin des années 60, au Cameroun, on le pratiquait comment ? Parce qu'il paraît quand même qu'il y avait très très peu de cours.
Il y avait très peu de cours, il y avait quasiment pas de cours, parce que dans tout le pays, il y avait 11 cours. Donc à l'époque, c'était...
Et vous n'aviez pas envie de jouer au foot ?
J'avais envie de jouer au foot, mais vous savez, tous les enfants jouent tellement bien au foot. Les enfants, ils jouent dans la rue avec des morceaux de torchons. Ils font des petites boules. Ils jonglent, ils sont très doués. Ils jouent pieds nus. Enfin bref. Donc tu arrives dans la cour de récré ou tu arrives dans la rue pour jouer avec les enfants. Comme t'es mauvais, on ne te prend jamais dans les équipes. Donc à un moment, je dis attends d'être remplaçant tout le temps. Tu vois ça aller. Et puis j'aimais bien. Et puis ouais, on s'est retrouvé au tennis. Voilà, un peu par hasard. Hein, c'est le destin. Les enfants n'avaient pas accès aux cours, hein, donc nous on jouait sur un terrain de boule, on se traçait les lignes avec les pieds, on mettait un banc, il y avait un banc qui servait de filet, et puis on avait pas de raquette, on avait pas de quoi se payer une raquette.
Alors, paraît même que, parce que bon, taper des balles contre un mur, rien de tel pour démarrer, sauf que vous, paraît-il, à 8-9 ans, vous faisiez ça à l'intérieur de la maison ?
Ouais, je jouais dans ma chambre.
Vous avez ravagé tous les murs de votre chambre, c'est
ça ? Je jouais dans ma chambre. Et alors, par contre, moi, ça a été vraiment une addiction directe. C'est-à-dire que le jour où j'ai découvert le tennis, ça a été. Je pensais plus qu'à ça. Je pensais plus qu'à jouer. J'adorais aller jouer au mur, au club. On avait accès à un mur, on jouait au mur. On avait tous les gamins, on était là. Donc, celui qui arrivait à gagner 3 points de suite, il restait. Ouais. Donc, l'idée, c'est que tu voulais rester le plus longtemps possible parce qu'il y a quand même des filles qui regardaient. Donc, il fallait quand même m'assurer.
Il fallait faire le héros.
Il fallait quand même faire un peu le malin. Et donc, voilà, c'était les premières motivations d'enfant, forcément. Et puis, oui, je m'entraînais dans ma chambre. Et puis, en fait, oui, c'est de la terre rouge. Et en fait, mais j'avais une chambre. Voilà, les murs étaient blancs. Et je jouais, ma mère était effondrée. Et mon père, je me suis pris des tannées. Mais je sais pas, c'est comme si je n'entendais pas. Je recommençais à chaque fois. Et je jouais contre ce mur. Et à chaque fois qu'il y avait un impact contre le mur, ça laissait une trace ocre sur le mur qui était donc pourri au bout de
Donc
voilà,
la chambre était intégralement rouge.
Et puis à un moment, ils ont laissé tomber. Ils se disent, bon, bah, écoute, il va rester dans sa chambre pourrie, il va faire son tennis et puis voilà.
Et voilà, Yannick Noah, votre détermination n'a pas échappé à Arthur Ashe, qui est devenu, j'ai envie de dire, votre ange gardien, même si le sport-études en France n'avait rien du paradis pour un jeune Camerounais. On s'interrompt un court instant et puis on continue d'agiter les souvenirs en compagnie de Yannick Noah. À tout de suite.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité. Cet après-midi, eh bien c'est Yannick Noah qui se raconte.
Indigo, c'est sans doute la couleur du bonheur. En tout cas, c'est le titre du nouvel album de Yannick Noah. Cet après-midi, mon invité, Yannick Noah, qui part en tournée, qui fera vraiment tous les festivals cet été et qui sera les 11, 12 et 13 décembre prochains à l'Olympia. Alors Yannick Noah, ceux qui vous aiment, et ils sont nombreux, savent tous que votre destin a basculé au hasard d'une tournée en Afrique du tennisman américain Arthur Ashe, qui vous avait regardé taper des balles sur un court à Yaoundé et qui vous a recommandé au président de la Fédération française de tennis de l'époque, Philippe Châtrier. Ce qu'on sait moins, c'est que après le tout premier trimestre que vous avez passé dans l'internat Tennis Études en France, et ben de retour au Cameroun, pour les vacances de Noël, vous avez failli annoncer à vos parents que vous alliez renoncer. C'était trop difficile. On n'imagine pas l'électrochoc que c'est pour un enfant qui vient d'un continent si différent, cet arrachement total avec les parents qui sont à 6000 km. Et pas de portable à l'époque.
Non, pas de portable. On s'appelait, c'était une fois toutes les 3 semaines. J'avais 10 minutes où je pouvais appeler en PCV au club parce qu'on n'avait pas le téléphone à la maison. Oui, c'était un choc. J'étais môme, alors, j'étais vraiment jeune. Mais il s'est trouvé que j'avais cette passion pour le jeu. Chose importante, c'est que en pension, j'avais un pote. On était les deux jeunes, les deux bisus en fait. On se faisait bisuter, donc on souffrait ensemble. Et voilà, c'était plus que mon ami, c'était comme mon frère. Ça, c'était la première motivation. Et puis au club, il y avait encore une fois une jeune fille qui était pour moi la plus belle fille du monde. Et j'avais 12 ans et bon, Cameroun. Enfin, moi, j'avais jamais vu une fille aussi jolie. Elle s'appelait Sylvie. Elle s'appelle toujours Sylvie, du reste. Et blonde, magnifique. Elle jouait un petit peu au tennis. Donc voilà, il y avait mon pote dans la pension. Et puis quand j'allais au club, bon, bah, si Sylvie était dans le coin, bon, bah, allez, j'allais m'entraîner. J'avais vraiment envie. Mais par contre, c'était dur. Ouais, les premières années, le premier hiver de ma vie, le froid, le bizutage, le fait que j'étais le seul métisse de tout le lycée. Il y avait 800 gamins. J'étais le seul.
Vous êtes confié à votre papa, Zachary, lorsque vous êtes rentré au Cameroun pour les premières vacances de Noël.
Oui, il m'a demandé ce que je voulais faire parce qu'il sentait bien avec toutes les lettres que j'écrivais, parce que j'écrivais des lettres à maman tous les jours. Tous les jours, je rentre, c'est pas possible, je racontais fort de détails tout ce qui se passait. Donc ouais. Forcément, c'était très dur pour elle aussi, tant bien même elle l'a bien caché. Et quand je suis rentré, je suis revenu avec toutes mes affaires. Et puis un soir, mon père me dit, bon, alors qu'est-ce que tu fais si tu veux repartir, tu repars, mais si tu veux rester, tu sais que tu peux rester, il n'y a pas de problème. On ne te juge pas, voilà, parce qu'il aurait... J'avais pas envie de les décevoir, forcément, mais c'était tellement dur. Mais il s'est trouvé qu'avant de partir, au moment de partir de Nice pour aller au Cameroun pour les vacances, on s'était juré avec mon pote Pierre que s'il y en a un qui revenait, on revenait tous les deux. Et du coup, voilà, on s'est tapé dans la main, comme ça, très fort. Et on s'est dit, bon, bah, tu reviens. Alors que dans mon cœur, j'avais tellement envie, j'avais envie que d'une chose, c'est plus jamais mettre les pieds en France. C'était trop dur pour l'enfant que j'étais. Et je suis revenu. Et quand je suis revenu, on s'est retrouvé avec Pierrot. Et là, de là, j'ai plus. Je me suis d'abord rebellé. C'était interdit de me toucher. Voilà, la personne qui arrivait, je me rebellais, alors je balançais des chaises, je me bagarrais, je me suis rebellé.
Et furieusement concentré pour que le tennis devienne l'obsession absolue.
Et j'ai joué, j'ai plus jamais regardé derrière, et j'ai joué du mieux possible pour impressionner Sylvie encore une fois.
Mais la musique, Yannick Noah, parce que quand vous avez 11 ans, en 71, ce sont les Poppies qui tournent en boucle à la radio. Vous seriez bien vu dans ce groupe ?
Ah, oh, j'adorais les Poppies, j'adorais, ça me faisait rêver. Ils avaient toujours, c'était des jeunes chanteurs de... d'Anières, j'adorais les chansons, j'adorais les textes, je rêvais d'être, de faire partie de ce groupe. Je connaissais toutes les chansons par cœur, certaines je m'en souviens encore pour la plupart, mais je rêvais de ça. Et c'était vraiment déjà une bonne thérapie, parce qu'en fait ils chantaient des jolies chansons d'amour, et c'était déjà, quand je chantais ça, j'avais l'impression que j'évacuais beaucoup d'émotions. Mes potes me disaient que je les emmerdais pendant l'étude où on était dans cette pièce en haut à l'internat, là, parce que je chantais tout le temps, mais pour moi c'était pas juste chanter, c'était au-delà, c'était une thérapie.
Alors, à l'âge où tous les ados, tout de même, forment des groupes, vous tapiez des balles. Mais vous écoutiez quoi à 15, 16 ans ? Les musiques et les interprètes qui parlaient à vos deux cultures étaient lesquels ?
Ben, j'écoutais...
Bob Marley, on imagine,
Bob Marley un peu plus tard, mais j'écoutais surtout les chansons, la musique qui tournait à la maison. Parce que comme j'avais le mal de la maison, comme j'avais mes parents me manquaient, mes sœurs me manquaient, donc en fait je récupérais toujours les disques qu'on avait quand on était ensemble. De les écouter, j'avais l'impression d'être un peu proche d'eux. Et j'écoutais ce que maman écoutait, parce que maman elle écoutait beaucoup Moustaki, Brel, Alain Barrière... elle avait le mal du pays.
Oui, elle était branchée, chanson française.
Et puis après, moi, de mon côté, j'écoutais aussi des chansons, parce que papa adorait danser. Et c'était les chansons camerounaises, les artistes du moment, Manu Dibango, que tout le monde connaît, mais aussi Francis Bébé et Cambi Briand, tous les gens du Cameroun. Donc c'était un joli mélange. Et puis après, j'ai découvert Bob Marley, là, je suis devenu fou.
On retrouve tout de suite Yannick Noah.
Chaque week-end de 15h à 16h sur Europe 1, Isabelle Morizet retrace le parcours de son invité. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et cet après-midi, on s'intéresse à toutes les vies d'un ancien champion de tennis reconverti dans la chanson.
Quand on est doué pour plusieurs vies, pourquoi choisir ? Je reçois Yannick Noah, dernier Français à avoir remporté Roland-Garros, dont le nouvel album Bonheur Indigo génère une gigantesque tournée qui démarre en mai et s'achèvera à l'Olympia les 11, 12 et 13 décembre. Alors Yannick Noah, vous m'en voudrez si je vous dis que votre carrière de joueur de tennis s'est arrêtée le 5 juin 1983, jour de votre victoire à Roland-Garros, simplement parce que le rêve était atteint, que la joie était absolue avec votre papa Zachary enjambant les rambardes pour courir dans vos bras sur le court, simplement parce que la redite d'une telle victoire n'aurait pas pu être aussi euphorique, et que peut-être vous ne vouliez pas d'une vie de sacrifice comme celle par exemple de Lendl à la même époque. Je dis vrai ou faux, nuancé ?
Totalement vrai.
Ah, donc je ressens les choses comme ça, oui, comme elles sont arrivées en fait.
Totalement vrai, je crois vraiment à la force du rêve. Alors est-ce que c'est mon éducation ? Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont écouté. Je pense que mes parents me connaissaient, ils m'ont laissé vivre mon rêve. Et c'était fort, ça m'a amené vraiment loin. Parce que je suis allé au bout de mon rêve. Et mon rêve, c'était quoi ? C'était de gagner à Roland-Garros. C'était mon rêve. J'étais pensionnaire. J'habitais un an à Roland-Garros. L'hiver, on allait sur le court. Je rêvais de ce court. Je me disais, est-ce qu'un jour, je vais pouvoir jouer sur ce court ? C'était vraiment mon rêve. Et quand je fermais les yeux, j'entendais les gens qui m'applaudissaient. J'entendais les gens qui m'encourageaient. Il n'y avait personne dans le stade, mais je le sentais. Je l'avais en moi. Et quand je l'ai vécu, j'avais atteint mon rêve. Et il était tellement... Il était mieux, la réalité était encore mieux
alors,
que mon rêve.
D'ailleurs, parce que effectivement, cette victoire, elle fait partie de notre patrimoine émotionnel, bien au-delà de l'univers du sport. Mais vous dites, plein de joueurs ont gagné plus de titres que moi, mais ils n'ont pas connu ce que j'ai vécu ce jour de 83 à Roland-Garros. J'aurais gagné à Wimbledon, à l'US Open ou en Australie, ça n'aurait pas laissé cette trace.
Bien sûr.
Comment vous l'expliquez ?
Mais la trace... la trace que j'ai dans mon cœur.
D'abord, c'est ça qui compte. Mais aussi, non, parce mais que les images ont fait le tour du monde et continuent.
Non, mais cette trace, dans le sens où, voilà, je vous parlais de mon rêve, c'est on joue pour qui on joue. Moi, je joue pour les. J'ai toujours joué pour les gens que j'aimais. Quand j'étais très émotif, et quand je gagnais un match, la première chose que je faisais, c'est que j'en envoyais un. Enfin, d'ailleurs, ma mère le savait tout de suite parce qu'elle le suivait souvent à la radio, mais je le faisais un peu pour eux. Et de pouvoir jouer le plus beau match de ma vie devant mes parents, mes sœurs, tous mes amis, ouais, toute ma famille, tous mes entraîneurs. Je connaissais les gens qui faisaient le cours, qui nettoyaient les cours, Mabrouk et toute son équipe. Je connaissais tout le monde. J'étais vraiment chez moi, il manquait personne. Et j'ai gagné là, j'aurais gagné en Australie, ça aurait pas été pareil. Parce que j'aurais pas pu partager avec ces gens. Et
du coup, vous vous souvenez forcément que le journal L'Équipe, ce jour-là, avait titré 50 millions de Français derrière Noah, sachant qu'en France, en 83, il y avait 53 millions d'habitants. C'est absolument extraordinaire.
C'est beaucoup, c'est beaucoup d'amour. C'est
justement, beaucoup d'amour. La popularité du tennis, elle était à son zénith quand vous avez remporté Roland-Garros. En 2020, très sincèrement, Yannick Noah, le tennis n'a pas perdu de son aura auprès des foules?
Ça dépend des pays. Ça dépend des pays, si vous allez dans certains endroits. En fait, on a besoin toujours d'un leader, d'un porte-drapeau. Voilà, il s'est trouvé que quand j'ai joué, il s'est trouvé qu'il y avait vraiment une belle énergie autour du tennis. Certes, c'était un peu, le tennis était branché. C'était j'ai pas envie de dire chic, mais un peu branché.
Il le serait moins maintenant.
Maintenant, les jeunes, ils aiment bien le skate, ils font des ils aiment bien. Il y a des sports qui sont plus branchés, le basket, voilà. Tennis, c'est. Mais il suffit d'un champion pour que tout bascule. Vous ne pouvez pas aller dire en Espagne que le tennis n'est pas populaire. Il y a les gamins, ils jouent partout parce qu'il y a Rafael Nadal. Si vous allez notamment là, depuis peu, il y a un joueur qui est assez intéressant, spectaculaire, différent, qui s'appelle Kyrgios. En Australie, il n'y a pas eu de champion depuis quelques temps. Eh ben, il se passe quelque chose.
Donc il nous faut une personnalité très très forte.
Nous avons des joueurs, mais je pense que s'il y en a un qui tout d'un coup, mais peut-être un qui est un joueur actuel, hein, ouais, mais qui d'un coup se retrouve pour en finale de Roland-Garros, allez voir. Je peux vous dire que ça va revenir très vite.
Alors revenons à vous, Yannick Noah. Vous avez fait gagner 3 Coupes Davis à la France, en 91, 96 et en 2017. Ce rôle de capitaine, d'ailleurs, on aime bien vous surnommer le grand sorcier, vous l'avez abordé avec des méthodes et des mots très différents de ceux des autres capitaines.
Je ne sais
de l'extérieur,
pas.
On imagine ça.
Je ne sais pas, disons que j'ai, dans un premier temps, j'étais un capitaine, j'avais 30 ans la première année, voilà, et on était avec Guy, donc j'étais capitaine de mes petits frères.
C'était une autre génération en 2017.
Voilà, ensuite c'était une autre génération, mais en fait c'était ouais, j'ai dû passer. Il fallait que je passe rapidement du fait que voilà, je m'occupais de ma gueule, et que c'est d'écouter l'autre, parce que c'est lui qui est important. Et c'était assez facile parce que c'était mes copains. Ensuite, c'était des joueurs que je connaissais un petit peu moins, donc j'ai appris. Mais en tout cas, la première année, j'ai essayé d'être le capitaine que je n'ai pas eu en fait. Voilà. C'est normal, enfin j'ai pas eu de formation, j'ai des capitaines que j'aime beaucoup, Jean-Paul Lhote, Pierre Darmon, enfin Jean-Paul, on est toujours amis, on se voit. D'ailleurs, j'espère qu'il est en forme parce que je l'ai foutu une branlée au golf.
Voilà,
le plus tôt possible.
Tu as bien entendu.
Voilà, il va l'entendre.
On va parler du golf parce que vous jouez fichtrement bien. Hein, les drives à 240-245 mètres.
J'essaie de faire illusion. Ouais.
En fait, tous vos adversaires de l'époque, quand vous étiez joueur de tennis, c'est-à-dire Guy Forget, Ivan Lendl, Mats Wilander, que vous avez mis KO pour cette finale de Roland-Garros en 83, étaient de très très bons joueurs de golf. Vous y êtes mis tard, très tard. Pour quelle raison?
Ouais, j'aimais pas le golf. Pour moi,
pourquoi
le golf? Parce que le golf, c'était un sport de bourges. C'était pas un sport. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Il s'est trouvé que les 2-3 premières fois où je me suis retrouvé sur un parcours, il y a eu des réflexions, j'ai eu un sentiment où. Voilà, je me sentais
d'un sport de classe.
Je me sentais pas appartenir à ce monde. Voilà, c'était j'ai pas eu de chance quelque part, parce que en fait je suis passé à côté d'un sport pendant des années qui est merveilleux. C'est vraiment un de mes regrets de pas avoir connu le golf plus tôt, parce qu'en fait j'ai arrêté de jouer au tennis.
Qu'est-ce que vous avez appris au golf?
J'ai arrêté très tôt. J'ai appris
le héros du sport.
Non, j'ai appris de profiter de l'espace, Voilà, c'est toujours des endroits merveilleux, c'est toujours des endroits de zen. Ce sont des jardins merveilleux. On joue dans des voilà, où, quel que soit le golf, c'est toujours beau. Ça a toujours été dessiné pour l'œil dans la nature. Tu es avec un copain à te balader dans la nature pendant.
Et on joue contre soi.
Ouais, on joue contre soi avec les potes. Et ouais, c'est un sport merveilleux. Et je regrette de ne pas avoir joué parce que je me suis arrêté de jouer au tennis parce que je m'emmerdais sur le circuit. Et à l'époque, on jouait toujours, c'était toujours golf et tennis country club, on jouait en Californie.
Mais alors, il paraît qu'aujourd'hui, même en tournée, Yannick Noah, vous embarquez votre sac de club au cas où il y aurait un parcours pas très loin des lieux de concert,
tout
c'est
temps,
ça
tout le temps.
Tout le temps.
Tout le temps. La plus belle journée pour moi, la journée type, la plus belle journée, c'est golf dans l'après-midi.
Et concert le soir.
Petite balance, déjeuner, petit stretching, enfin dîner, stretching, concert. Alors là, bah oui, du coup, je prends l'air pendant 5 heures et après je vais faire un concert et là c'est merveilleux. Là, c'est la belle vie.
Ah, la belle vie, j'ai 1000 questions encore à lui poser. On fait une pause très courte, on retrouve tout de suite Yannick Noah.
Et la conversation entre Isabelle Morizet et Yannick Noah se poursuit sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Indigo, comme le bleu du ciel sous les tropiques. Bonheur Indigo est le titre du nouvel album de Yannick Noah qui nous donne rendez-vous dans tous les festivals de France cet été et les 11, 12 et 13 décembre à l'Olympia. Yannick Noah, parfois le destin s'amuse et provoque des surprises qui nous entraînent bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Ainsi, vos vrais débuts de chanteur en studio, parce qu'on n'a pas encore évoqué ça. C'était l'été, vous jouiez au foot avec des potes sur la pelouse du Champ de Mars, et l'un de vos copains, producteur d'un groupe, vous dit tout à coup « Ah, ce soir, j'ai retenu un studio, mais le chanteur est malade, il ne va pas pouvoir enregistrer, alors je vais quand même y aller pour travailler sur des bandes. Tu m'accompagnes ?» Et là, bien sûr, il faut nous raconter la suite.
Oui, c'est mon copain Mickey Milan. Voilà, et donc je me retrouve dans ce studio à Méga à Suresnes. Et voilà, je découvre un studio. Et je me mets derrière. Il me dit, tu veux pas essayer? Tu vas voir, c'est marrant. Je te mets une petite boîte à rythme. Je fais une petite, y a une petite maquette là. Et puis voilà, tu mets le casque. Et je vais mettre un petit effet sur la voix. Et tu vas voir, c'est sympa.
Et vous
tout.
Découvrez votre voix dans le casque.
Et là, je découvre ma voix dans le casque. J'avais un petit studio, j'avais une petite case à la maison. On avait des instruments. Mais là, tout d'un coup, le son est tellement bon. Bon, bref, et puis je m'amuse. Et puis je m'amuse, et puis je m'amuse. Je me prends au jeu. Et puis on avait le temps. De toute façon, il avait le studio toute la soirée. Et à la fin, il me dit, mais c'est marrant, mais qu'est-ce que tu racontes là? Et je lui dis, je raconte des histoires, c'est des petites blagues, c'est des petites réflexions, c'est des phrases qu'on se dit quand
vous improvisiez sur la rythmique.
Voilà. Et voilà, et petit blanc, Paris, Yaoundé,
voilà. Voilà, et alors ce qui est très savoureux, c'est quand même, il faut préciser que la bande démo sur laquelle vous vous êtes amusé à chanter, et c'était tout simplement la démo de Saga Africa dont vous vendrez quelques temps plus tard 1,5 million d'exemplaires. Mm-hmm. Donc vous avez improvisé un texte sur une rythmique et la chanson, le tube est né ainsi.
Oui, enfin c'est de la chance, hein. J'étais accompagné par... Non mais c'est venu comme ça, voilà, c'est naturel, c'est vrai que bon, ça sort naturel, c'est rythmique, c'est juste. Je vous parlais tout à l'heure de peut-être mon destin, on parlait de Johannesburg, on parlait de mon métissage. Oui. J'ai fait des chansons qui parlent du métissage beaucoup. Quand j'ai gagné Roland-Garros, la première chose que j'ai dit, je remercie mes deux familles, Cameroun, machin, que je vous parlais de Saga Africa, justement, quand on gagne avec l'équipe de France. Et cette chanson, comme ça, improvisée, c'est Paris, Yaoundé, connexion, mais venez.
Oui, c'est ça.
Voilà, ça c'est un des. Voilà, c'est venu comme ça, mais
c'était
voilà, ça revient.
C'est une estampille ça musicale d'ADN, en
ça
fait.
Ça revient tout le temps. Et voilà, il s'est trouvé qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui ont aimé. Et puis, je me suis retrouvé à faire un clip. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je fais un clip, quoi.
Cette carrière de chanteur, elle a démarré de façon fulgurante. Notamment, d'ailleurs, grâce à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le show que vous avez improvisé après avoir fait remporter comme capitaine la Coupe Davis à la France en 91. Et vous dites, devenir chanteur m'a permis de faire le deuil du joueur de tennis. Et ensuite, avec les albums, ça m'a permis d'exprimer des choses enfouies, même totalement interdites quand j'étais sportive de haut niveau. Lesquelles, par exemple?
la douceur, la tendresse, même parfois l'hésitation, même des fois la petite erreur en concert, j'aime bien. Et le dernier album, j'ai même eu sur celle-là, sur certaines chansons, il y a même des moments où je me dis, mais c'est presque à la limite de quelque chose d'un peu presque féminin. Et ça, c'est très intéressant à vivre, à explorer. Et mais comme beaucoup, j'ai beaucoup de choses dans ma vie. Il y a eu tellement d'interdits quand on est à tête de haut niveau.
Bien sûr.
Quand on essaie d'aller au plus haut niveau, que tout d'un coup, on bloque plein de choses jusqu'au moment où, parfois avec un peu de chance, ou parfois parce qu'on est accompagné, parfois parce qu'il y a des thérapeutes qui vous amènent à vous trouver un équilibre. Mais le chant m'a aidé justement à exprimer ces choses-là. Mais je peux parfois même les exprimer en chanson et être encore incapable de les exprimer dans la vraie vie. Mais c'est déjà, voilà, je m'approche.
Alors je continue de dérouler le fil, Yannick Noah. Le Stade de France, en 2010, devant 90 000 spectateurs vous acclamant vraiment comme si vous étiez Mick Jagger. Vous l'avez vécu comment ?
C'est passé trop vite. C'est beaucoup... L'avant-veille, je suis allé au Stade de France, il était vide, parce que j'aimais beaucoup visualiser les endroits
faire
dans
du
lesquels...
Repérage.
Toujours visualiser, ressentir les énergies des endroits tout seul. Et c'était vraiment impressionnant. C'était impressionnant de me retrouver au milieu de tout ce stade. Et gigantesque. Et je me disais, j'avais des émotions qui remontaient. Je dis, mais pourquoi moi, quoi ? En fait, c'était ça. Pourquoi cette chance ? J'en ai tellement rêvé de ce truc-là. J'en ai tellement rêvé. C'est pas possible. Quelques mois avant, j'étais allé voir ACDC. J'avais vu, je me dis, mais ça doit être incroyable de jouer là. Puis le concert était tellement extraordinaire. Et puis voilà, je me retrouve à jouer. Et puis on a travaillé énormément le spectacle, parce que je me disais pas que j'allais jouer 50 fois au Stade de France. Je savais que c'était peut-être la première et dernière fois, et en l'occurrence c'est la première et dernière, et c'était on l'a tellement travaillé, je l'ai tellement travaillé, je connaissais le spectacle par cœur, où j'allais, ce que je disais, comment je dansais, le changement, je l'avais aimé par cœur. Et je suis arrivé quand on a commencé le spectacle, en fait j'ai juste pensé qu'à l'émotion.
Oui.
J'ai fait que jouer. Et du coup, c'est passé vite.
Alors Yannick Noah, vous aviez 30 ans quand est sorti votre premier album, et vous avouez que vous chantiez à cette époque-là pour vos amis. Vous aurez 60 ans cette année pour la tournée de l'album Bonheur Indigo, et vous dites chanter désormais pour vos enfants, pour la nouvelle génération, qui vous considère sans doute comme l'ancien, mais qui veut que vous lui contiez des histoires. Vous êtes en train de devenir... un griot, le grand griot, qui fait à la fois danser et rêver les foules.
Non, je suis plutôt en train de devenir un papy.
Allez, mais griot.
Enfin, je suis papy. Faut que je raconte des histoires. J'ai raconté des histoires. J'ai voyagé. J'aime bien partager. J'aime bien raconter des histoires aux mômes. Je fais ça pas mal. Je capture leur imagination. Je les fais rêver. Je fais des grands yeux. J'aime ça. J'adore leur raconter des histoires. C'est tellement mieux d'avoir quelqu'un qui te raconte des histoires que de regarder tes tablettes. Donc ouais, j'aime bien ça, parce que de toute façon, le message m'a été transmis comme ça. Les messages nous étaient transmis comme ça quand j'ai grandi. Notre grand-père, il nous racontait des histoires. Il y avait des gens qui avaient fait des grands voyages qui revenaient. On avait très peu de livres. Il y avait bien sûr pas de télé, mais on n'avait même pas l'électricité ni l'eau. Donc, quand quelqu'un revenait d'un voyage qui nous racontait, c'était tellement fort. J'ai gardé, je pense, un petit peu ça. J'aime bien raconter pour les gamins, quand mes enfants, quand ils allaient se coucher quand ils étaient jeunes. Et puis raconter à travers des chansons, j'aime bien ça.
Sauf que maintenant, ça se passe dans des stades.
Dans des stades ou des petites salles, c'est bien aussi dans des petites salles. Aussi.
Voilà, c'est bien aussi, mais aussi dans des stades. Allez, on retrouve tout de suite Yannick Noah.
On retrouve Isabelle Morizet pour la suite et fin de son entretien avec Yannick Noah, qui, après avoir passé 2 ans sur un voilier, nous est revenu avec un nouvel album, Bonheur Indigo. Et il y a une tournée. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, pour quelques minutes encore.
Yannick Noah, j'ai appris une chose étonnante. Depuis 3 ans, depuis la disparition de votre père, Zachary, vous êtes le chef d'un gros village de 5000 âmes, baptisé Etoudi, tout près d'Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et quand vous arrivez à Etoudi, il y a une sorte de rituel. Comme tout chef, vous recevez les doléances des villageois, qui concernent aussi bien l'école que les routes. C'est une sacrée responsabilité. Comment vous en sortez de cette fonction de chef de village ?
C'est un peu... C'est pas si simple. C'est pas si simple parce que je suis parti du Cameroun, j'avais 12 ans. J'ai encore des. Enfin, je me sens profondément camerounais, je me sens profondément français. J'y vais en vacances tous les ans. J'ai passé des longs moments. Mon papa y est enterré, mon grand-père y est enterré. Je me sens vraiment chez moi. Mais j'ai vécu pendant 45 ans en Europe, en France, aux États-Unis. Et donc,
eux qui vous ont choisi comme chef.
Oui, de par la tradition, je suis la descendance. En fait, ça saute à partir du moment où mon père est parti, je suis devenu naturellement le chef du village, à condition que les notables, les anciens l'acceptent. Donc, j'ai été accepté. C'était une cérémonie intense émotionnellement parce que c'était le jour de l'enterrement de papa. Et donc, c'était à la fois
le jour même.
C'était le passage de témoin. Mmh. Et ce passage de témoin, il se fait, la tradition, c'est beaucoup de danse, beaucoup de chant, beaucoup de... Voilà, pendant des heures et des heures. Donc voilà, pour moi qui ai aussi quand même une culture française, c'était assez étrange de danser devant le corps de papa. Mais voilà, et tu es porté, tu es dans une espèce d'état second, une espèce de transe, et du coup, c'est moins douloureux. C'est plus facile. On n'a pas le temps de parler de toutes les traditions qui sont merveilleuses pour accompagner les défunts.
Mais par exemple, celle qui vous a... Vous les connaissez, ces traditions, mais celle qui avait pour vous la plus grande charge émotionnelle.
Moi, ce que j'ai adoré, c'était les veilles, les veillées. En fait, 4 jours avant l'enterrement, tous les soirs, il y a, donc moi en tant que fils et chef, il y avait un grand feu. Et tous les gens du village qu'il avait connu venaient, et pendant toute la nuit, venaient parler des souvenirs qu'ils avaient eu avec papa. 90% des histoires, je ne connaissais pas. Des gens, des tontons, des oncles, des amis, des gens que je connaissais qui parlaient. Et du coup, à chaque fois, ça se terminait toujours avec des rires ou des petites larmes. Mais c'était comme si j'avais le livre de mon père, de l'histoire de mon père qui s'ouvrait. Et ça pendant 4 jours. Et c'était très, très, très intense. Et puis de revoir ces gens le lendemain qui avaient donc un lien avec papa. Donc on se sent soutenu. Et du coup, moi, ça m'a vraiment aidé, moi et mes sœurs aussi. Enfin, ma sœur Nathalie qui était là. Ça nous a aidés vraiment à accompagner papa avant qu'il parte.
Et en même temps, spontanément, quand j'ai posé la question, vous m'avez dit... Ça n'a pas été simple, peut-être parce que comme vous êtes citoyen du monde et que vous voyagez énormément, par exemple, vous avez passé les 2 dernières années sur un voilier, à sillonner les océans, il faudrait que vous soyez plus souvent présent là-bas, c'est ça ?
Il y a de ça, parce que j'ai un bon papa, on avait l'endroit où on a grandi, où on a construit un club de sport, une piscine, enfin un lieu où papa vivait. Mais tout d'un coup, c'est une très très lourde responsabilité. C'est déjà très lourd d'être le chef de sa propre famille. C'est déjà dur. Voilà, je suis le plus vieux, j'ai des petites sœurs, j'ai une espèce d'héritage qui est lourd, une espèce de responsabilité. Mais en plus de ça, il y a tout le reste qui va avec. Il y a encore quelques semaines, il y a un cousin lointain qui dont la famille me disait que par tradition, il devait être enterré dans le caveau familial. Je ne connaissais pas. Il devait être enterré au-dessus de papa. À l'époque, j'étais avec Joachim, et donc j'étais à Chicago, l'autre bout du monde.
Ouais.
Et tout d'un coup, on me dit, il y a ça, il y a vraiment demain, il y a quelqu'un qui va être enterré au-dessus de papa. Enfin bon, bref. Et en tant que chef, j'ai dû intervenir en tant que chef.
Ouais.
Et c'était, c'est compliqué, c'est lourd, parce que bon, mais quand il s'agit d'organiser une fête, c'est sympa. Mais des fois, il y a des décisions qui sont à prendre, qui sont un peu étranges et difficiles, et le chef, il doit prendre la décision. Quoi.
Et en même temps, vous participez à la modernisation de ce pays, parce que, par exemple, j'ai appris que vous êtes lancé au Cameroun dans l'activité de promoteur immobilier avec la construction d'immeubles à Yaoundé. Bon, votre... implication, elle n'ira pas jusqu'à la politique, c'est ça ?
Alors, cette histoire, elle est très bien, parce que c'était un espèce de rêve. J'ai un cousin, dont je ne citerai pas le nom, parce que, qui m'a embarqué dans un projet immobilier. Donc, je ne pensais pas que j'allais venir dire ça à Europe 1. Et donc, c'était il y a 3 ans.
Oui.
Il y a 3 ans, le gouvernement camerounais, qui me fait confiance, parce que ce sont des gens qui m'accompagnent depuis toujours, m'ont mis un terrain à disposition. J'ai investi de l'argent et mon cousin a disparu.
Oh.
Et donc voilà, donc le projet immobilier, il n'y a même pas une pierre. C'est une grosse catastrophe. Mais bon, voilà.
Et vous avez perdu de l'argent.
Ça fait partie de... c'est l'Afrique, c'est comme ça aussi.
Yannick Noah. C'est compliqué, c'est magique, c'est une vie de symbole. C'est parfois agaçant, souvent euphorisant d'être justement Yannick Noah.
Bon, c'est quand je suis en face de gens bienveillants comme vous, c'est sympa. dites que des choses gentilles, mais des fois on peut aussi attiser. C'est pas l'attention qui me gêne, oh, pas du tout. Je veux dire, bon, comme disait papa un jour j'étais, on était en train de discuter, et puis il y avait des gens qui nous interrompaient à chaque fois pour faire une photo, un autographe. C'est à un moment, je dis papa, c'est dur. Il me dit, ne me fais pas chier avec ces histoires. Si tu voulais être tranquille, tu n'avais qu'à perdre à Roland Garros.
Donc, c'était
clair. Mais voilà, non, ça me dérange pas. Et puis pouvoir donner du bonheur. Mais bon, des fois, il y a la jalousie. Il y a des gens qui peuvent être durs. Quand on est sensible, moi, il y a 50 personnes qui peuvent me faire des compliments. Quand il y en a un qui me fait du mal, j'y pense tout le temps. C'est très étrange. J'arrive pas avec le temps de faire la différence. Oh, c'est pas grave du tout, mais ça va, c'est pas grave. Mais j'y arrive pas. Et donc, du coup, j'essaie de me protéger au maximum.
Alors, il y a cette tournée euphorisante qui démarre en mai, qui va vous faire aller de festival en festival tout au long de l'été, puis à l'Olympia, qui va résonner de vos chansons les 11, 12 et 13 décembre. J'imagine que votre voilier attend à quai. Après l'Olympia, vous allez reprendre la mer ou pas ?
Il va attendre, le bateau va attendre. Là, je pars en tournée, mais c'est qu'est-ce que j'aime ça ? Qu'est-ce que j'aime être sur scène ? Qu'est-ce que j'aime jouer avec mes copains ? Qu'est-ce que j'aime la musique ? Qu'est-ce que j'aime ça ? C'est fou, quoi. Quelle chance ! Quelle chance d'aimer son boulot ! Quelle chance ! Mais aimer, mais passionnément. Passionnément, c'est-à-dire qu'il y ait 50 personnes, 20 personnes, 1000 personnes. J'adore ça. J'adore ça. On est en promo, on fait des petits showcases, on fait des petits concerts. J'adore ça. On est au resto, je suis avec mon pote Nico, je lui dis mais va chercher la guitare. On joue, j'adore ça. Donc là, à chaque fois là, que vous avez parlé des dates, là, je dis oh putain, c'est pas vrai.
Il est impatient.
J'y retourne, ouais, ça fait longtemps, ça va faire 5 ans que je suis pas parti, j'ai pas joué. Enfin, j'ai joué un peu, j'ai joué beaucoup là, même quand on parle du bateau. Étant en Jamaïque ou à Cuba, je joue un petit peu, mais là, c'est en tournée au quotidien. J'en peux plus d'attendre. Trop excité.
On a voyagé cet après-midi avec vous. Merci,
merci
pour cette générosité légendaire éprouvée une fois de plus.
Merci.
Je vous embrasse, à très
merci.
Vite.